Chapitre 19e. Madame d'Infreville, sortant enfin de sa stupeur, dit à madame de Luceval : « En vérité, Florence, je ne sais si je rêve ou si je veille. Encore une fois, toi, toi si indolente, si habituée au bien-être, un tel courage, une telle opiniâtreté dans le travail. Oui, il faut que je t'étonne davantage encore. Sais-tu, Valentine, quelle était ma vie pendant 4 ans, et notamment il y a 3 mois, lorsque mon mari et toi vous êtes venus vous informer de Michel et de moi, rue de Vaugirard. On nous a dit que chaque jour vous sortiez tous les deux le matin avant le jour et ne rentriez que bien avant dans la nuit. Mon Dieu !» dit Florence en riant comme une folle. « Maintenant que ces souvenirs me reviennent et que je vois tout cela de loin, combien c'est amusant !»« Tiens, voici le récit de l'une des dernières journées qui ont clos mon purgatoire. Elle te donnera une idée des autres. » À 3 heures du matin, je me suis levé, j'ai terminé la copie d'une partition et la coloration d'une grande lithographie. Tu ne t'étonneras pas du moins de mes talents. Tu sais qu'au couvent, ce dont je me tire le moins mal, c'était de la copie de musique et de la mise en couleur des gravures de sainteté. Il est vrai. Et cela t'a été de quelques ressources? Je le crois bien. J'ai parfois gagné rien qu'à ces ouvrages jusqu'à 4-5 francs par jour. Ou plutôt par nuit, sans compter mes autres états. Tes autres états, mais lesquels? Je poursuis le récit de ma journée. À 4 heures, je suis sorti et je me suis rendu à la halle. Ah, mon Dieu, à la halle, toi, qui faire? J'y tenais jusqu'à 8 heures du matin le bureau d'une factrice, trop grande dame pour se lever si tôt. Du reste, rien de plus pastoral. Un entrepôt de crème, d'œufs et de beurre. J'avais en outre un petit intérêt dans la factorerie et, bon an mal an, je retirais de cela 2 000 et quelque 200 francs. Toi, Florence, toi, marquise de Luceval, un pareil métier. Et Michel, donc? Lui, quel métier faisait-il? Il en faisait plusieurs. D'abord celui d'inspecteur des arrivages à la halle, ma chère. Rien que cela. 1 500 francs. Une haute considération de la part de messieurs les chartiers et de messieurs les maraîchers. Par là-dessus, libre à 9 heures du matin. C'est alors qu'il se rendait à son bureau et moi à mon magasin. Comment, à ton magasin? Certainement, rue de l'Arbre Sec, à la Corneille d'Or. J'étais première demoiselle chez une grande lingère, une maison de la Vieille Roche, et comme sans me vanter, je chiffonne avec assez de goût, je n'avais pas ma pareille pour la confection des canzous, des baigneuses, des mantilles, des cols, des visites, et pour l'élégance des garnitures, mais je me faisais payer très cher, 1 500 francs. Il faut profiter de sa bogue. Oui, 1 500 francs par an et nourri, s'il vous plaît. C'est à prendre ou à laisser. Il était aussi formellement entendu que je ne paraîtrais jamais à la vente. J'aurais craint d'être reconnu par quelques pratiqués. Cela m'eût gêné en sortant du magasin. Ta journée n'était donc pas finie. À 8 heures, y penses-tu? Car j'avais encore mis pour clause que je serais libre à 8 heures, afin de pouvoir utiliser mon temps. Pendant 1 an, je travaillais chez moi à la tapisserie, à la copie de musique et à mes aquarelles. Mais plus tard, la femme d'un ami de Michel m'a trouvé quelque chose de miraculeux. Une bonne vieille dame aveugle, du meilleur monde, mais très misanthrope. Aussi, ne pouvant sortir de chez elle et n'aimant pas à recevoir, elle préférait passer ses soirées à entendre des lectures. Pendant 3 ans, j'étais sa lectrice au prix de 800 francs par année. J'arrivais chez elle à 9 heures. Tour à tour, je lisais, nous causions, puis nous prenions le thé. Cette dame demeurait rue de Tournon, de sorte que Michel, après minuit, venait me chercher en revenant de son théâtre. De son théâtre? Oui, de l'Odéon. Oh mon Dieu! S'écria Valentine. Il était acteur. Que tu es folle! Dit Florence, riant aux éclats. Pas du tout. Il était contrôleur à l'Odéon. Je te dis que nous avons fait tous les métiers. Michel remplissait ses fonctions au théâtre. Après avoir quitté son bureau, il gagnait ses 2 400 francs par an. Michel, si indolent, incapable autrefois de s'occuper seulement de ses affaires. Et il remarque bien qu'en rentrant, il mettait encore au net des livres de commerce, ce qui augmentait d'autant nos revenus. Ainsi donc, ma bonne Valentine, tu concevras qu'en vivant avec la plus sévère économie, en nous passant de feu en hiver, en nous servant nous-mêmes, et en employant même nos dimanches à travailler, nous ayons en 4 ans amassé la bienheureuse somme qu'il nous fallait. Eh bien, quand je te parlais des prodiges enfantés par la paresse, avais-je tort? Je n'en reviens pas, c'est à n'y pas croire. Et mon Dieu, Valentine, comme le disait Michel, il y a un vif amour de la paresse au fond de bien des existences très laborieuses. Pourquoi tant de gens, qui ne sont ni ambitieux ni cupides, travaillent-ils souvent avec une infatigable ardeur, afin de pouvoir se reposer le plus tôt possible? Or, qu'est-ce que le repos sinon la paresse? Aussi, ajoutait Michel, on ne sait pas de quels travaux énormes est capable un paresseux bien déterminé à pouvoir paresser un jour. Tu as raison. Je conçois maintenant que l'amour de la paresse puisse donner momentanément une ardeur extrême pour le travail. Mais dis-moi, Florence, pourquoi votre logement si voisin est pourtant séparé? Oh, quant à cela, vois-tu, Valentine, ça a été de notre part le comble de la raison. Une résolution d'une sagesse sublime, héroïque, dit Florence avec un accent de triomphe plein de gentillesse et de gaieté. Nous nous sommes dit, quel est notre but? Amasser le plus vite possible l'argent qu'il nous faut pour paresser un jour. En ce sens, le temps, c'est l'argent. Donc, moins nous perdrons de temps, plus nous gagnerons d'argent. Or, pour nous, le meilleur moyen de perdre beaucoup de temps, c'est d'être ensemble, et par suite, de nous livrer ainsi aux délices de jaser, de songes creux, de rêver à deux. Nous trouverions cela si charmant que la pente serait irrésistible. Alors, adieu le travail, c'est-à-dire les moyens de pouvoir un jour paresser à tout jamais. Car pour paresser, encore faut-il vivre à son aise. Ce n'est pas tout, disions-nous encore. Nous avons, il est vrai, une sainte horreur des amours qui donnent de la peine et du souci, c'est très moral. Mais à cette heure que nous sommes libres, à cette heure que rien ne nous serait moins gênant que notre amour, hé hé, qui sait? Le diable est bien fin, et alors que deviendrait le travail? Que de temps, c'est-à-dire que d'argent perdu. Car comment trouver le double courage de s'arracher à la paresse et à l'amour? Non, non, soyons inexorables envers nous-mêmes, ne compromettons pas l'avenir et jurons-nous, au nom du salut de notre divine paresse, de ne pas nous dire un mot, un seul mot, tant que notre petite fortune ne sera pas faite. Comment? Pendant ces 4 années, nous avons tenu notre serment. Pas un mot? Pas un mot, à partir du jour où nous avons commencé à travailler. Florence, tu exagères. Une telle retenue est impossible. Je t'ai promis la vérité, je te la dis. Mais enfin, pas un mot. Cela me semble une précaution exagérée. Exagérée? Eh mon Dieu! Tout dépendait d'un mot, d'un seul mot, et ce premier mot l'a dit. Comment répondre du reste? Ainsi, pendant ces 4 années, pas un mot. Mais pour les choses graves, les mesures à prendre concernant nos intérêts, nous nous écrivions, voilà tout. Il faut te dire aussi que nous avions imaginé un moyen de correspondre à travers la cloison qui séparait nos chambres. C'était juste tout autant qu'il nous en fallait, et pour nous dire « Bonsoir Michel, bonsoir Florence ». Et le matin « Bonjour Michel, bonjour Florence ». Ou bien encore « Il est l'heure de partir ». Et de temps à autre « Courage Michel ». Courage Florence, songeons à notre paradis, et gaie le purgatoire. Vois combien nous avons été prévoyants d'adopter cette méthode. Croirais-tu que Michel trouvait encore quelquefois le moyen de tant bavarder, à coups de manche de couteau frappé sur notre cloison, que j'étais obligé d'imposer silence à cet emporté? Juge donc si nous avions eu le malheur de nous parler. Et cette étrange correspondance vous suffisait? Parfaitement. N'avions-nous pas une vie commune, malgré cette muraille qui nous séparait? Notre esprit, nos moindres pensées, ne tendaient-elles pas au même but? Et poursuivre ce but, c'était songer toujours l'un à l'autre. Puis enfin, matin et soir, nous nous apercevions, nous n'étions pas amants, cela nous suffisait. Si nous l'eussions été, brrr, la paille ne vole pas plus vite à l'aimant, que nous n'eussions volé l'un vers l'autre au premier regard. Enfin, il y a 15 jours, notre but a été atteint. Nous avions en 4 ans gagné 42 000 francs et tant de 100 francs. J'espère que c'était vaillant. Nous aurions pu, comme disent les commerçants, nous retirer quelques mois plus tôt. Mais nous nous sommes dit, ou plutôt écrit, c'est bien de ne vouloir que le nécessaire. Mais il faut du moins que le pauvre passant qui aura faim et qui frappera notre porte trouve aussi chez nous son nécessaire. Rien ne donne plus de quiétude à l'âme et au corps que la conscience d'avoir toujours été bon et humain. Cela repose. Aussi, une fois en train, nous avons un peu prolongé notre purgatoire. Eh bien maintenant, Valentine, avoue qu'il n'y a rien de tel que la paresse bien dirigée pour donner aux gens activité, courage et vertu. Adieu, Florence. dit madame d'Infreville d'une voix étouffée en fondant larmes et se jetant dans les bras de son amie. Adieu, et pour toujours adieu. Valentine, que dis-tu ? Un vague et dernier espoir m'avait conduite ici, espérance insensée comme toute celle de l'amour opiniâtre et déçue. Adieu, encore adieu. Sois heureuse avec Michel. Dieu vous avait créé l'un pour l'autre. Votre bonheur, vous l'avez vaillamment gagné, mérité. Soudain, l'on entendit sonner bruyamment à la petite porte du jardin. « Madame, madame !» dit la vieille nourrice en accourant aussitôt, tenant à la main une lettre sans cachet qu'elle remit à Valentine. « Voici ce que le monsieur qui était resté dans la voiture m'a dit de vous remettre tout de suite. Il venait du côté de la haie. » ajouta la servante en indiquant du geste la direction de la clôture végétale, masquée de ce côté par un épais massif d'arbustes. Valentine, pendant que Florence la regarde avec une surprise croissante, ouvrit la lettre qui contenait un billet et lut ce qui suit écrit au crayon. « Remettez de grâce ce mot à Florence et venez me rejoindre. Il faut partir, il n'y a plus d'espoir. » Madame d'Infreville fit un mouvement pour sortir. « Valentine, où vas-tu ? » dit vivement Florence à son amie en la prenant par la main. « Attends-moi un instant, » reprit madame d'Infreville en serrant presque convulsivement les mains de son amie entre les siennes. « Attends-moi et lis cela. » Puis remettant le billet à Florence, elle s'éloigna d'un pas précipité pendant que la jeune femme, de plus en plus étonnée en lisant l'écriture de son mari, lisait ces lignes aussi écrites au crayon. « Au moment où madame d'Infreville entrait chez vous, je franchissais la haie de votre jardin. Caché dans un massif, j'ai tout entendu. Un vague et dernier espoir m'amenait ici et, s'il faut tout vous dire, cet espoir déçu, je voulais me venger. Je renonce à l'espérance comme à la vengeance. Soyez heureuse, Florence. Je ne puis désormais ressentir pour vous qu'estime et respect. Mon seul regret est de ne pouvoir vous rendre une liberté absolue. La loi s'y oppose. Il faut donc vous résigner à porter mon nom. Encore adieu, Florence. Vous ne me reverrez jamais. Vous n'entendrez plus parler de moi, mais de ce jour, conservez mon souvenir comme celui de votre meilleur, de votre plus sincère ami. A. de Lusval. » Madame de Lusval fut attendrie à la lecture de cette lettre, qu'elle terminait à peine, lorsqu'elle entendit le roulement d'une voiture qui s'éloignait de plus en plus. Florence comprit que Valentine ne reviendrait pas. Lorsqu'à la tombée du jour, Michel revint trouver madame de Lusval, celle-ci lui remit la lettre de son mari. Michel fut, comme Florence, ému de cette lettre, puis il dit en souriant : « Heureusement, Valentine est libre. »